En ce cyberlundi, on a quelqu'un qui va vous suggérer comment dépenser quelques dollars.
Accès libre avec Luc Fortin.
Salut tout le monde, en compagnie de Jean-Sébastien Laliberté, à la mise en onde de Catherine Bourderon. À la recherche, c'est Christiane Campagna qui est en charge de tout ce que vous voyez sur le web. Mon nom est Luc Fortin, comme la madame l'a dit. Et aujourd'hui, dans cet accès libre dernier du mois de novembre, entre autres, ben oui, on va parler de gugus, de cossins, qui vont peut-être faciliter votre vie. Vous qui êtes une personne aveugle, on va en parler avec un geek du techno, Alexandre Bellemare. On va également s'intéresser à ces demandeurs d'asile et ces réfugiés qui arrivent au Canada, mais dans quel état? Mobilité Québec, un nouvel organisme pour les gens de la capitale. Qu'est-ce qu'on a également? Les impatients qui nous vendent, en fait, qui vident leur trésor, leur caverne. Et ben, on parle à Monique Lefebvre. Dans combien de secondes, Jean-Sébastien, cette fois-ci?
30 secondes pile poil.
30 secondes, bon, il en reste 26. Le sport a connu son lot d'annonces de départ la semaine dernière après Richard Legendre qui quitte la vice-présidence de l'Impact, Jean-Charles Lajoie qui quitte l'animation de l'émission sportive la plus écoutée au Québec, Éric Guy qui quitte les pentes, c'est Monique Lefebvre qui a décidé de quitter le navire chez Altergo, du moins c'est prévu pour février 2019. J'avais le choix donc de parler à plein de monde, j'ai choisi Monique. Bonjour Monique Lefebvre.
Bonjour Luc, merci beaucoup de m'avoir choisi.
Ça fait très très plaisir. Monique, après ton décès, tu veux une rue, une école ou une station de métro?
Écoute, j'ai vraiment pas pensé à ça, puis je sais pas quoi répondre à ça. Je veux surtout que les personnes qui ont des limitations aient une meilleure qualité de vie. Ça, ce serait mon
ouais.
plus beau cadeau.
Oui, on le souhaite ouais. tous. pourquoi l'annoncer si tôt? Pourquoi fin novembre alors que c'est quoi? C'est février? Vous vouliez quoi faire votre tournée d'adieu là, à la Aznavour, à la Dominique Michel, à la...
Ah, écoute, dans le monde des organisations, 2 mois, c'est très petit. Hein? Ouais. Puis aussi, la semaine dernière, on tenait l'Assemblée annuelle des membres d'Altergo. Alors, on voulait en profiter aussi pour annoncer aux membres puis faire en sorte que je puisse leur dire un dernier au revoir. Mmh. Alors, c'est pour ça qu'on l'a annoncé quelques mois à l'avance.
Moi, ce qui m'étonne, c'est que tu sois encore là. À dire vrai, là, je trouve ça fabuleux que tu sois encore là. Ma recherchiste voulait que je te demande si la politique t'intéressait.
Pas du tout.
Okay.
J'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui la font, mais je n'ai pas vraiment l'intention d'aller en politique dans les prochaines années. Si je prends ma retraite, c'est aussi pour profiter d'avoir un petit peu plus de temps.
Ouais.
Alors, les élus, ils n'en ont plus de temps.
Oh, il y a ça, c'est vrai. Bon, les questions que les gens vont te poser, t'ont déjà posé, disons... Mm-hmm. Ce que tu souhaitais au départ, quand est-ce que tu étais la première? J'ai pas connu la RLPHIM sous d'autres tutelles que la tienne. Qui était là avant toi?
C'est une dame qui s'appelle Diane Chaillé.
OK.
Elle était là pendant de 75 à 80.
Okay.
Elle avait mis sur pied Altergo, qu'on appelait effectivement l'Association régionale pour le loisir des personnes handicapées de l'île de Montréal.
Et quand tu as pris la relève, j'imagine, bon, tu avais des visions. On t'a demandé à l'entrevue d'embauche, où voulez-vous amener l'organisme? Tu souhaitais quoi? Et 38 ans plus tard, bon, on peut présumer que vous êtes allé plus loin que prévu. Mais qu'est-ce qui te surprend le plus?
Bon, écoute, il y a pas mal de questions dans tout ça. Quand j'ai passé l'entrevue, c'était il y a 38 ans.
Mm-hmm.
Et qu'est-ce qui m'inspirait? Puis ça, pourquoi je voulais travailler dans ce domaine, c'est pour changer les mentalités. Parce que peut-être certains s'en rappellent, mais mon père est un sportif.
Ouais.
Et quand j'allais au sport avec ma mère, tout le monde était vraiment impressionné de ses talents. Puis quand j'allais à l'épicerie avec ma mère, ben qu'elle aussi une imitation, mais les gens trouvaient qu'elle faisait pitié, puis elle recevait de l'argent, puis des 25 sous. T'sais. Alors, j'avais vraiment remarqué que le sport et le loisir avaient un impact important, puis je me disais, ben, si je peux changer les mentalités et que les personnes puissent voir le potentiel, les capacités plutôt que les incapacités, ben, j'aurais réussi quelque chose dans ma vie.
Et c'est pour ça que tu n'as pas fait un organisme d'épicerie, mais de sport.
Vous avez très bien compris.
Ouais.
En plein, ça, c'est bien dit. J'ai un bon sens de l'humour ce matin.
Ben, non, ça va bien. J'ai pas dormi depuis 1h10 cette nuit, mais c'est vrai que ça va bien. Mais je suis heureux de te parler, Monique. Je vais te faire un gros câlin virtuel à la fin de l'entretien. Tu sais tout le respect que j'ai pour toi. Mais merci. Maintenant, là, 38 ans plus tard, ce qui t'a surpris, parce que vous en avez fait du chemin depuis là.
Non, je ne suis pas sûre. Ben, mais ce qui, on est très contents.
Oui, je comprends, mais ce que tu dis, ça, là, je pensais pas que ce serait comme ça.
OK, tu ne penserais pas que ce serait comme ça? Que
c'est comme à une certaine époque, à une certaine époque, tu regardes aujourd'hui le chemin parcouru, puis tu dis, ça, là, ça me surprend qu'on ait réussi ça. J'aurais pas imaginé ça au départ.
Écoute, je suis à la fois une personne très optimiste, mais je regarde les changements qui sont arrivés, puis surtout qu'Altergo s'est doté d'une nouvelle vision, d'un schéma de transformation sociale, parce que je trouve qu'il y a encore beaucoup trop de discrimination à l'égard des personnes handicapées. Fait que oui, il y a des choses qui ont changé, on a plus accès au transport, on a plus accès aux loisirs, mais il me semble qu'il y a encore des barrières systémiques fondamentales qui font qu'il faut encore travailler à changer les mentalités, puis il faut être plus proche des Québécois, plus proche du grand public pour leur faire comprendre, oui, le potentiel, puis aussi c'est quoi les obstacles qui reviennent jour après jour. Je trouve qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, puis je pense que l'équipe d'Altergo va continuer à faire ça, puis on a du pain sur la planche. Puis ce qu'on vise le plus, c'est dans nos changements de pratique, c'est de faire travailler les organismes ensemble. Parce qu'on est trop isolés les uns des autres. On travaille chacun selon notre domaine d'intervention. Puis je pense que ce qu'on a à changer, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose de collectif.
Ouais.
C'est ça vraiment à quoi on va... On va s'attaquer.
Ouais. Et je pense que, bon, tranquillement, même de plus en plus, ça se fait. Mais c'est vrai que parfois, je suis surpris de voir qu'un oublie encore l'autre, disons, dans ses demandes d'accessibilité ou on va prêcher pour notre besoin à nous en oubliant peut-être l'autre. Monique, bon, il y a choisir de gagner, il y a formation Altergo, il y a... bon, l'accessibilité, il y a plein de petites choses qui vont au-delà du défi sportif Altergo. Comment vous avez choisi de prendre autant d'expansion dans des domaines qui n'étaient pas les vôtres au départ? Comment ça s'est fait, ce choix-là?
Ben, à chaque fois, on a regardé quels étaient les besoins. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour atteindre notre objectif, que l'accessibilité soit et que les personnes qui ont des limitations puissent participer au même titre que tous les citoyens? Alors, c'est vraiment cette formation Altergo, c'était aussi pour nous une façon de sensibiliser, d'informer, de faire en sorte que les gens soient plus compétents dans leur travail pour accueillir les personnes qui ont des limitations. Alors, ça s'applique au monde du loisir, du sport, puis ça s'applique à d'autres domaines. Alors, c'est pour ça qu'on a parti formation Altergo qui vole bien de ses ailes aujourd'hui aussi. Mais on sait qu'il y a encore tellement de travail à faire. Mais tantôt, je parlais également du travail collectif qu'on veut faire. Puis notre tout dernier projet, c'est un travail avec le Centre hospitalier Sainte-Justine et le Centre de réadaptation de Marie-Enfant. Et on a collaboré à la mise sur pied d'un technopôle de réadaptation pédiatrique. Et ça nous a permis de créer un foyer de collaboration. Quand je parlais d'approche collective, là, oui, entre organismes de personnes handicapées, on est isolés, mais les centres de réadaptation puis les organismes communautaires, on ne travaille pas beaucoup ensemble. Pourtant, on travaille pour la participation sociale des personnes handicapées.
Ouais.
Alors, le Technopôle est en train de sortir de terre, va être ouvert en début d'année 2019, puis ça va devenir vraiment un lieu où, dans les corridors, dans les salles, les chercheurs, les cliniciens, les organismes communautaires, les parents, les familles vont pouvoir se rencontrer pour donner des visions différentes des projets. Pas juste les chercheurs sur leur bord, pas juste les gens communautaires sur leur bord. On va travailler ensemble, puis c'est vraiment ça qui est la voie de l'avenir, de regrouper nos forces, parce que sinon, on va être encore rendu à la même place dans 10, 20, 30 ans, puis il est temps que ça change.
Mais en même temps, comment se fait-il que ce soit Alter Go qui serve de catalyseur à ce genre de truc-là. C'est fabuleux, mais je me dis, pourquoi faut-il? Comment se fait-il que notre société n'est pas capable de penser à ça toute seule? Puis ça prend une OBNL qui est en loisir et en sport pour s'en aller dans un centre hospitalier et dire « Hey, ce serait le fun qu'on se parle, tout le monde. »
Oui. Puis même encore, tu vois, la demande, c'est le ministère de la Santé et des Services sociaux qui a demandé au CHU Sainte-Justine d'avoir sur le comité de pilotage, de démarrage, un organisme communautaire.
OK.
Alors, je pense qu'on reconnaît de plus en plus que nous sommes proches des besoins, qu'on connaît, qu'on est capable d'intervenir et d'influencer les processus pour que ce soit plus adéquat pour les personnes qui ont des limitations.
Ouais.
Alors, on est trop bon, qu'est-ce que tu veux?
Ben, et c'est tant mieux. Est-ce que c'est le genre de truc que tu pourrais garder? Parce que l'autre question que tout le monde va te poser, c'est qu'est-ce que tu vas faire en mars, en plus de faire un peu plus de yoga? Qu'est-ce que tu vas faire de ton temps? Est-ce que c'est le genre de truc de comité sur lequel tu aimerais siéger?
Pour le moment, je souhaite vraiment prendre un bon 8 mois d'arrêt complet pour laisser la place aussi à l'équipe d'Altergo, puisque j'ai la chance d'être super bien entourée. Alors, je veux que les gens puissent voler de leurs propres ailes, puis après ça, on verra.
Je comprends tout à fait.
Voilà.
Gros câlin, et j'aime toujours rappeler, même si je pile sur mon orgueil chaque fois, que tu auras changé ma perspective, parce que j'ai longtemps chialé contre Monique parce que je trouvais qu'elle était trop douce. Et comme Monique prend quand même passablement de place, c'est une intervenante incontournable dans le milieu du handicap, parfois je me disais, est-ce qu'elle nous nuit par sa gentillesse, par sa douceur? Et finalement, j'ai compris que c'était l'approche qui fonctionnait, et c'est probablement pour ça que Sainte-Justine vous a appelé, vous, plutôt que moi ou d'autres. Bravo, bravo. Merci au nom de tout le monde, et on va être plein de gens à te le dire de toute façon, mais prends les félicitations, et surtout amuse-toi à partir de mars.
Ben, merci à tous les auditeurs, parce que Canal M m'invite souvent à parler à votre équipe. Alors, merci beaucoup, chers auditeurs, puis belle vie à Canal M.
Salut, Monique.
Merci.
Elle est travailleuse sociale et psychothérapeute spécialisée en intervention auprès des personnes réfugiées et demandeurs d'asile pour le réseau d'intervention auprès des personnes ayant subi de la violence organisée. J'ai nommé Véronique Harvey. Bonjour Véronique, merci d'être là.
Merci.
Qu'est-ce que la violence organisée? J'en ai une petite idée, mais je ne voudrais pas trop présumer.
Alors la violence organisée, c'est une violence avec laquelle on peut faire un lien avec l'État, soit que l'État... délibérément orchestrer, organiser un acte de violence envers un individu ou un groupe, ou a échoué de protéger cet individu ou ces groupes. Donc, on parle de guerre, de génocide, on parle de torture, on parle aussi de persécution.
Oui, hein, je pense aux LGBTQ dans certains pays.
Absolument.
Okay.
On parle de femmes, des femmes qui ont vécu de l'inceste, des viols, des mariages forcés, de l'excision, et qui proviennent de pays, évidemment, où il n'y a pas de protection pour ces personnes. On parle aussi de gens qui ont été persécutés sur la base de leur identité ethnique ou leur affiliation religieuse.
C'est sûr que nous, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est la limitation fonctionnelle, bien que toutes ces réalités-là font subir des traumatismes d'une façon ou d'une autre. Mais si on parlait de la réalité des réfugiés qui arrivent avec des situations de handicap, est-ce que d'abord le Canada est assez ouvert? Où on se dit, oups, ça va être une charge supplémentaire à l'État, on va être plutôt réticent.
Je ne pourrais pas répondre, c'est vraiment pas mon expertise de voir des personnes avec handicap. Moi, ce que je peux vous dire par contre, c'est qu'au niveau de la santé mentale, qui est vraiment ce qu'on fait au Riveau, en fait, on offre donc les services de psychothérapie gratuits. C'est qu'il y a des personnes qui sont tellement envahies par les traumatismes qu'ils ont vécu en convergence avec le parcours migratoire qui est parfois traumatisant en lui-même et qui sont déracinées de façon tellement brutale parce qu'ils fuient pour leur vie. Hein, c'est pas un choix. Et c'est vraiment, on parle de gens qui ont fui pour sauver leur vie. Donc, quand on converge tout ça avec les stress d'adaptation ici, ça peut faire en sorte qu'il y a certaines personnes, pas toutes les personnes réfugiées ou migrantes, mais il y a un pourcentage de ces personnes qui vont devenir paralysées, qui vont avoir de la difficulté à fonctionner, soit dans une des sphères de leur vie ou complètement. Ils n'arrivent plus à sortir de chez eux. Alors, dans ce sens-là, je pense que c'est important qu'on parle du bien-être psychologique et émotionnel des personnes qui arrivent, parce que ça peut devenir handicapant si les gens ne sont pas soutenus quand ils en ont besoin.
Ça se fait sous forme de thérapie de groupe, thérapies individuelles, un peu de tout ça, j'imagine?
C'est surtout la thérapie individuelle.
Okay. Ils ont droit à combien de séances? Parce qu'il y a des traumatismes qui sont là pour la vie, là, j'imagine.
Je pense que les traumatismes dont on parle sont là pour la vie.
Oui.
Oui, ça ne s'oublie pas. Puis...
Alors, ils ont droit à combien de séances d'effrayer?
On est limité selon notre financement. C'est entre 20 et 30 séances, mais 30 séances, c'est dans les cas les plus sévères. Ou dans le cas des enfants, parce que les enfants, souvent les enfants qu'on voit, ils ont été témoins d'un acte de violence qui a été fait à leurs parents. Et comme ils n'ont pas encore, cognitivement parlant, leur cerveau n'est pas développé de façon à ce qu'ils puissent avoir une perspective, une vue d'ensemble où ils peuvent relativiser ce qui s'est passé. Ils vont plutôt, au contraire, se l'approprier et se dire, et pas tout à fait comprendre le pourquoi c'est arrivé et qu'est-ce qui est arrivé. Ils ne sont pas nécessairement capables de le mettre en mots non plus. Donc, dans le cas des enfants, on souhaite pouvoir offrir plus que 30 séances.
Ouais. Avec Véronique Harvey, qui est travailleuse sociale et psychothérapeute spécialisée en intervention auprès des réfugiés. Drôle de question peut-être, mais j'ai entendu quelques reportages où on nous expliquait que les gens sur place pouvaient parfois exagérer, sachant que c'était la façon d'obtenir des services. C'était même pas de la mauvaise volonté, c'était juste qu'à un moment donné, lorsque, je sais pas moi, que ce soit Médecins sans frontières, ou lorsqu'ils arrivent dans le village, si on dit telle ou telle chose, le service ou l'aide va arriver plus vite. Comment aider quelqu'un qui, peut-être, se sent obligé de se rendre intéressant, alors qu'il n'est même pas obligé d'amplifier que déjà sa situation est tragique? Comprenez-vous ce que je veux dire?
Oui, mais je ne sais pas ce qui se passe dans les autres organismes. Encore là, c'est pas un sujet que je peux approfondir. Tout ce que je peux parler, c'est de ce qu'on voit au Riveau. Les personnes qu'on reçoit, ce sont vraiment les personnes les plus vulnérables.
Okay.
Donc, ils ont été déjà vus par des médecins, soit à la clinique des réfugiés ou au YMCA qui offre l'hébergement à ceux qui sont seuls, qui n'ont pas de famille, donc ils n'ont pas de lieu où résider, donc ils peuvent être hébergés pour 30 jours. Ils ont été vus peut-être par un avocat en immigration ou par un intervenant dans un organisme communautaire et ils ont été identifiés comme étant extrêmement vulnérables. Donc, l'intervenant, soit le médecin, le travailleur social ou l'avocat, a une inquiétude, ouais. une sérieuse inquiétude concernant cette personne. Et ce sont des intervenants, des professionnels qui envoient beaucoup des personnes immigrantes. Donc, nous, ce qu'on voit au RIVO, ce sont vraiment des personnes en très grande détresse. Et
J'en suis certain, mais est-ce que vous sentez parfois qu'on se sent obligé, disons, de colorer notre vécu davantage?
Je pourrais pas vous dire, dans le sens où vraiment, encore là, comme les personnes qu'on voit, ce sont vraiment des personnes qui sont en situation de crise, là, qui ont des idées suicidaires, qui ont... Ouais. Moi, je sens pas, je ne vois pas ça dans ma pratique. Je vous dis pas que ça existe pas, mais honnêtement, je vous dirais que c'est certain qu'il y a des personnes qui sont issues, la plupart des personnes qui ont fui, là, on parle des personnes qui ont fui, on parle pas d'immigrants économiques ou autres. Ils fuient des gouvernements corrompus où dire la vérité, ça joue pas toujours en ta faveur. Ouais. Et ce sont des personnes qui, parfois, peuvent avoir développé des façons de survivre en disant ce qui est attendu d'eux pour pouvoir survivre.
Et
donc,
on peut comprendre.
S'il y a de ça, oui, je peux comprendre. Mais encore là, nous, dans le cadre de la psychothérapie, on traite l'identité qui a été déconstruite, on traite l'estime de soi qui a été défaite, on traite le traumatisme, on aide des personnes à gérer les cauchemars, les flashbacks, le problème de concentration, parce qu'on veut que les gens s'intègrent, on veut que ça soit sur des bancs d'école, ou on veut tout de suite qu'ils se trouvent un emploi, mais il y a des gens qui ont de la difficulté carrément à se concentrer, à intégrer ce qu'une personne leur dit, trois phrases même à la limite, mais ça passe pas. C'est pas parce qu'ils sont pas intelligents, c'est pas culturel, c'est pas une barrière de langue, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent français. C'est que parfois, c'est le trauma qui est tellement envahissant, c'est typique au stress post-traumatique, puis on le voit chez les survivants en général.
En terminant, comment s'est passée votre soirée de jeudi dernier, le 22 novembre dernier, où il y avait soirée bénéfice?
Magnifiquement bien. Ça a été une soirée mémorable. Nous, notre objectif, c'était, oui, d'amasser des fonds, mais c'était aussi de marquer dans l'histoire nos 25 ans, au cours desquels on a offert 40 000 heures de thérapie gratuite. Puis ça a été une soirée, à ce qu'on m'a dit, les gens m'ont vraiment donné des commentaires très positifs, ils m'ont parlé de soirée magique. Ils ont été très émus aussi par les témoignages des deux survivantes qui ont partagé leur histoire, qui ont parlé de l'aide qu'ils ont reçue au RIVO. Donc, ça a été très touchant.
Je sais que c'est un petit peu secondaire, mais quand même tellement important. On avait un objectif de 25 000 $. Est-ce qu'on pense que d'ici la fin de l'année, on va pouvoir y arriver
Je l'espère. Ouais. Je l'espère. Et puis, les besoins pour le financement, c'est pas seulement pour cette année, c'est aussi l'an prochain. Donc, on encourage les gens à nous faire des dons à tout moment. Ça peut être maintenant. Il y a encore la possibilité de le faire en allant sur notre site Internet à RIVO, RIVO. traitdunionresilience.org. Les gens peuvent faire des dons, il n'est pas trop tard et c'est toujours très apprécié.
Oui, en lisant les nouvelles, de toute façon, jour après jour, on se rend compte à quel point un organisme comme le vôtre est important. Merci beaucoup, Véronique Carvé.
Merci à vous.
c'est un peu comique. Je lisais mes notes et Jean-Sébastien me rappelle alors dans le temps. Es-tu prêt? Parce que, ben oui, Simon Zagary est avec nous. Et le temps file, puisque les impatients vendront quelques morceaux choisis de leur collection assez impressionnante lors d'une exposition qui commence ce jeudi, qui va se dérouler jusqu'au 21 décembre à la galerie Deux Poissons. Bonjour Simon Zagary.
Bonjour Luc.
Merci beaucoup, beaucoup d'être là. Vous qui êtes responsable de la collection, je lisais près de 15 000 artefacts.
Oui.
Ou morceaux ou pièces?
C'est ça, qui regroupe peintures, sculptures, dessins, depuis près de 25 ans.
Mais là, on met ça où? C'est...
Dans un stockage beaucoup trop petit, beaucoup trop loin. Donc là aussi, on essaie de développer ce volet-là pour essayer de rapprocher la collection pour qu'elle soit aussi accessible à plus de monde.
Mais je ne suis pas capable d'imaginer le travail que ça prend pour faire un choix à travers tous ces items-là.
Mm-hmm.
Comment on fait ça? Est-ce qu'il y avait des critères précis?
Non, pas vraiment. C'est sûr que la plupart des créateurs sont avaient déjà la volonté de créer sans que ça soit exposé. En
Bien
fait,
sûr.
C'est vraiment le principe de création qui est important à la base. Donc nous, on n'a pas de critères. Il n'y a pas vraiment de sélection à ce niveau-là. On essaye de collectionner, de recenser une diversité avant tout.
Ça va. Mais après ça, comme vous ne pouvez pas tout montrer, comment vous avez fait le choix de dire « Ok, on va montrer un peu de ci, un peu de ça ».
Alors, il y a certains des créateurs qui ont marqué l'histoire des impatients, de par leur passage aussi sur plusieurs années, de par leur production aussi. Certains, là par exemple, on a des créations de Philippe Lemaire qui vont être montrées. Il a la particularité d'avoir créé un ensemble de 800 peintures qui ont toutes le même titre, à savoir le char de mon père, et qui représentent toute la même chose, à savoir le char de son père. Donc là aussi, c'est vraiment...
Attendez là. Mais est-ce que ça peut pas être 800 fois la même peinture? Mais c'est la même voiture sous différents angles?
Non, c'est tout le temps le même angle. Il y a des légères variations, mais c'est vrai que c'est quasi...
Okay.
L'image se ressemble beaucoup, on va dire, d'une fois à l'autre. Alors c'est sûr qu'il y a toujours des variations.
Et quel était l'intérêt?
Alors là, pour ce participant, c'est assez particulier. C'est qu'il était en hôpital. Et son père venait le chercher une fois par semaine pour le sortir de l'hôpital. Donc, il attendait ce moment avec impatience. Et en attendant, il peignait.
La voiture.
Exactement.
800 fois.
Environ.
Mais on oublie l'objet et on pense à l'histoire. Donc, j'imagine que plusieurs de ces objets-là, c'est surtout ça qui est intéressant. C'est l'histoire derrière l'objet?
Bien sûr, aussi.
Ah.
Pas tout le temps, mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est une histoire qui est derrière l'objet, mais qui est aussi derrière les impatients. Donc la sélection s'est faite aussi à ce niveau-là pour essayer de prendre à travers le temps des créations originales qui ont marqué...
Simon s'arrête,
oui.
Mais je veux d'autres histoires, d'autres items. Ça, c'est le genre de truc qui va nous donner envie, ça va titiller notre curiosité. On revient, on s'arrête 2 minutes.
Écoutez Accès libre.
Avec à la mise en onde Jean-Sébastien Laliberté, à la recherche Catherine Bourderon. C'est Marc Britant qui est responsable de Canal M, la radio de Vues et Voix, que je n'ai pas croisé encore. Mais Jean-Sébastien, rassure-moi, il est revenu en pleine forme, notre décollement de rétine préféré?
C'est une belle présentation. Il est de retour depuis la semaine dernière au travail.
Alors on va essayer, on est content de le voir, même si on ne l'a pas vu encore. Et je continue mon entretien. Je suis bouche bée avec Simon Zagary,
Zagary.
J'aurais pas dû mettre ma feuille au rebut. Simon qui nous parle de cette exposition qui démarre jeudi, soit le 29 novembre, qui va jusqu'au 21 décembre, où les impatients vont à la fois se départir de certains objets qu'on va espérer vous voir acheter, pour bien sûr répandre la bonne nouvelle de l'importance de l'art pour ces personnes atteintes de maladies mentales, mais aussi pour aller chercher quelques deniers. Et Simon nous avait mis la puce à l'oreille avec, entre autres, une œuvre, un peintre qui a peint 800 fois la même voiture, à peu près le même angle, et on a expliqué pourquoi. Est-ce que vous avez d'autres histoires, même si différentes, Simon?
Il y en a quelques-unes, elles sont toutes quand même assez atypiques et assez différentes à leur façon. Là, pour l'exposition donc, qui s'appelle « Qu'est-ce qui se passe dans ma tête ?», Justement, le titre est tiré d'une œuvre de Normand Hébert, qui lui aussi est resté très longtemps à l'hôpital et qui justement a développé un peu aussi une série sur l'agitation cérébrale. Donc c'est aussi des gens qui avaient conscience de cette position-là et qui se remettaient beaucoup en question, qui le mettaient en image aussi. Donc il y a des choses vraiment authentiques, en fait, authentiques vraiment dans la proposition de toutes ces œuvres. D'ailleurs, on a là pour l'exposition un ensemble de 23 œuvres. Il y aura 20 œuvres 2D, donc peinture, dessin, et 3 œuvres en volume, des sculptures, 3 sculptures.
J'ai dit niaiserie ou c'est vrai que vous les vendez?
Oui, on les vend et on les vend au prix unique de $500. Donc là aussi, tout cet argent-là reviendra aux impatients et permettra de continuer à accueillir des participants gratuitement à nos ateliers d'expression artistique.
Est-ce qu'on a établi un peu ce qui se passe dans la tête? Est-ce que, un peu comme la maladie d'Alzheimer, où souvent c'est la musique qui sera le dernier rempart, surtout si la personne a beaucoup aimé la musique? Je voyais encore la semaine dernière le documentaire sur la maladie d'Alzheimer que subissait Glenn Campbell. Est-ce que c'est un peu la même chose au chapitre de l'art dans les problèmes de santé mentale?
On a des améliorations, effectivement, si je peux parler comme ça. On a des améliorations au niveau de la santé, au niveau même personnel de ces personnes-là qui viennent. Je dois avouer que je n'ai pas les chiffres, j'ai fait mes devoirs. Mais après, nous, il y a aussi quelque chose d'important, c'est qu'on ne leur demande pas pour quelles raisons ils viennent. C'est sûr qu'il faut avoir un appui d'un médecin, etc. Mais nous, si on accueille ces personnes-là, c'est pour qu'ils puissent s'exprimer sur éventuellement leur maladie, mais sur d'autres choses aussi. C'est pas une contrainte pour nous. Et ce qui est important, c'est qu'ils s'expriment librement, donc sans contrainte. On veut pas savoir quels sont leurs bobos, si je puis dire. Ouais. Et on veut que ça soit un endroit aussi rassurant, accueillant, où vraiment ils pourront s'exprimer sans être jugés, sans contrainte quelconque.
Simon, on peut reconnaître à votre accent que vous n'êtes pas né à Joliette. Est-ce que la santé mentale est perçue différemment en France d'ici? Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait apprendre de la société française? Ou...
Il y a des choses à apprendre de partout. Ouais, c'est vrai qu'après, là, ce qu'on appelle l'art hors norme, donc qui est réalisé par des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, je pense que c'est perçu différemment aussi en France. Y a peut-être moins ce soutien-là aussi aux participants, en fait, à l'individu. Il existe bien sûr des endroits qui offrent des services plus ou moins similaires à ce que nous on propose, mais je pense qu'on reste quand même un endroit mondial assez rare.
Ce qui se passe dans ma tête, donc, ça commence jeudi le 29, ça se déroule jusqu'au 21 décembre, la galerie Deux Poissons. Petite question, tiens, pour les personnes en fauteuil roulant, c'est accessible?
Oui.
OK, fameux. Vous me disiez que c'est 300...
C'est au 372 Sainte-Catherine Ouest, suite 414.
Bon succès. Alors, je vous le disais, si vous avez quelques dollars, Alexandre Bellemare a peut-être des façons de vous proposer ou des manières de les dépenser, surtout que, comme dirait l'autre, aujourd'hui, c'est le cyber lundi. Et donc, comme monsieur est assez geek, il est représentant des ventes et responsable du soutien technique chez Canadialogue. Salutations, Alexandre Bellemare.
Bonjour, M. Fortin.
Tu peux m'appeler Luc, il n'y a aucun problème. J'ai demandé à Alexandre parce que, bon, il y a peut-être des gens qui, comme moi, vous êtes des abonnés de Double Tap Canada, qui est un balado sur les nouvelles technologies, particulièrement pour les personnes avec un handicap visuel. Et ils ont commencé à se lancer chacun des petits défis en ce sens. Quels sont les 5 items qui facilitent ta vie? Et, bon, sans nécessairement se limiter à 5, j'avais envie de connaître un peu les items qui facilitent la vie d'Alexandre, en sachant que, bon, comme il est beaucoup plus geek que moi, ça se peut que ce soit des choses assez pointues. Et pourtant, quand j'ai reçu sa liste, ben, j'ai vu que son appart était peut-être aussi sale que le mien, parce que on commence par un robot aspirateur.
Ben oui, effectivement, c'est une technologie que j'utilise quand même déjà depuis quelques années. C'est quoi le concept du robot aspirateur? On en retrouve de plus en plus dans les grandes surfaces. Ce sont, dans le fond, c'est un aspirateur qui se promène littéralement tout seul et qui, dans le fond, fait le tour de la maison et permet, dans le fond, de ramasser la poussière.
Qu'est-ce qu'on fait avec les tapis, Alexandre?
Les tapis, généralement, ça y va. C'est certain que, par contre, un tapis, des fois, c'est un petit peu plus raide, mais ça vient quand même avec une brosse à tapis. Mais je n'écarte pas aussi là, la possibilité de temps en autre de passer l'aspirateur régulièrement. La meilleure chose à faire avec les tapis, c'est des éliminer personnellement.
Oh non!
Que, ben oui!
Oh, j'aime trop ça! Et qui gagne, surtout si je suis pas à la maison et que je décide de... Parce que c'est fabuleux, on n'est pas obligé d'endurer le bruit. Mais qui gagne entre le chat et l'aspirateur lorsqu'on n'est pas là?
Ah, ben moi, j'ai déjà vu des chats qui s'assoient dessus puis qui se laissent promener.
Oh, c'est trop cute! OK. Ça coûte combien environ?
Ben, les aspirateurs robots, il y en a quand même dans toutes les gammes de prix. Okay. Là, c'est certain que moi, ce que j'avais acheté, ça tournait aux alentours de 500 $ environ.
OK. Et bon, ça peut quand même ramasser passablement. Là, on est sûr d'au moins faire une surface assez grande sans être obligé de vider le sac à moitié du chemin?
Ben moi, généralement, je vide le... En fait, c'est pas un sac, c'est un bac. Là. Généralement, okay. Je le vide environ aux deux fois environ là, qu'on passe l'aspirateur.
OK,
là.
Donc tu dois être à la maison. Tu peux pas être t'absenter.
Ben, idéalement, oui, parce que c'est certain aussi que l'aspirateur, mais oui, on peut le faire. Okay. Ou on peut, par exemple, la faire passer de nuit, par exemple, mais c'est certain
de
que...
Nuit?
Ben oui, la nuit, effectivement.
Mais ça fait pas de bruit?
Ah, ben oui, ça fait du bruit.
Mais là,
ça fait du bruit, sauf
de
que,
vivre,
honnêtement, je connais des gens qui le font de nuit, ils préfèrent ça comme ça, ils n'ont pas d'impact, puis le bruit les réveille pas nécessairement, donc c'est une possibilité également. C'est certain que l'aspirateur, à un moment donné, ça se prend, par exemple, dans un lacet, dans un fil électrique, bien, elle peut se mettre à crier.
Okay. Ça prend de la supervision. autre truc autour de la maison, la lumière connectée, et t'as choisi la Philips en particulier.
Oui, ben en fait, récemment, moi, j'ai acheté un setup, un kit de lumière connectée. Dans le fond, pourquoi? Parce qu'on avait déjà au préalable vu comment fonctionnaient les Philips. Donc, c'est ce que j'ai acheté. L'avantage de ça, ben en fait, c'est de pouvoir les contrôler à la voix avec un haut-parleur connecté, par exemple, comme un Amazon Alexa ou un Google Home Mini ou même avec Siri. Pour ceux qui disposent d'un iPhone. Mm-hmm. Donc, par exemple, allume les lumières de la cuisine, ferme les lumières de la chambre, ou non seulement ça, mais moi, étant complètement non-voyant, il y a souvent des gens qui viennent chez moi, qui allument les lumières, mais qui ne pensent jamais à les refermer. Ouais. Donc, étant un petit peu tanné de vivre cette situation-là, les lumières Philips, en fait, ce que ça permet aussi, c'est de créer, dans le fond, des routines permettant d'allumer ou d'éteindre les lumières à une certaine heure.
Donc, OK, comme les lumières de sécurité dehors, là.
Oui, c'est ça,
okay,
exactement.
Okay.
Donc, moi, à 23h30, à tous les soirs, si les lumières sont allumées, pouf, tout s'éteint automatiquement.
Okay, okay.
Donc, j'ai même plus à gérer ça.
Parce que j'allais te dire, je ne suis pas à t'apprendre que des applications pour nous dire que la lumière est allumée, mais j'aime le petit ajout là, de chronomètre et de cadran. Apparemment, au dire de plusieurs, qu'une personne aveugle ne peut pas vivre sans un Echo d'Amazon. C'est vrai, ça?
Pas vivre, non. Par contre, c'est quand même grandement utile. Moi, j'en ai acheté plusieurs. J'en ai d'ailleurs commandé un troisième au Black Friday qui devrait s'en venir éventuellement. C'est certain que c'est quand même très utile, par exemple, pour avoir de l'information rapide, par exemple, sur la météo, sur des choses comme ça, où moi, c'est certain que je contrôle de plus en plus d'éléments à la voix, mm-hmm. dont les lumières, les prises électriques peuvent se contrôler à la voix. Donc, des fois, c'est beaucoup plus court de demander, par exemple, bon, ben, Alexa, turn on the lights, que... par exemple, d'aller faire le tour de la maison ou, tu sais, par exemple, là, je peux demander, bon, ben, turn off all lights. Donc, ouais, à ce moment-là, ouais. toutes les pièces vont s'éteindre one shot automatiquement.
Mais chaque, que ce soit chaque lumière ou chaque truc du genre commandé par un haut-parleur intelligent doivent avoir une petite prise particulière. Là. Ça commence à coûter des bidous, non?
Ben, en fait, la façon que ça fonctionne pour les lumières, ça vient avec ce qu'on appelle un bridge en anglais, donc un pont qui se connecte au routeur et la lumière, dans le fond, on n'a pas à toucher directement à l'électricité ou quoi que ce soit. C'est vraiment des ampoules là, qui, dans le fond, remplacent les ampoules existantes tout simplement par les Philips. Par contre, pour ce qui est des prises de courant, dans le fond, oui, ça se vend. C'est ce qu'on appelle l'Amazon Smart Plug. Donc, c'est une prise de courant qui se connecte en plus de ça au réseau Wi-Fi et qui permet d'allumer ou d'éteindre à distance ou par la voix ou en tout cas de la façon que vous le souhaitez l'appareil qui est connecté.
OK. Tous ceux, je sais qu'il y en a encore qui résistent. Moi, j'ai résisté pendant un certain temps, mais tous ceux qui ont un téléphone intelligent se disent « Pourquoi j'ai attendu tout ce temps-là? » Mais j'aime un petit peu ta précision. Tu dis un iPhone... surtout ou important pour sa caméra. Et là, tu me parles d'applications, que ce soit Light Detector, que ce soit Be My Eyes, que ce soit Seeing AI. Donc, des applications qui nécessitent une caméra.
Oui, exactement. Juste avant d'en venir à ça, petite précision pour ce qui est d'Amazon Alexa, c'est disponible en français Europe pour l'instant. Au niveau du Canada, c'est pas encore très, très évolué. Okay. Et évidemment, au niveau des fonctionnalités, il y a beaucoup plus de fonctionnalités disponibles en anglais comparativement à ce qui est disponible en français. Donc, tenez-vous-le pour dire.
Ouais, bon,
le Google, par contre, est quand même beaucoup plus verbeux en français.
Okay.
Pour ce qui est de la caméra du iPhone, oui, effectivement, moi, je l'utilise sur une base quotidienne. Ne serait-ce, par exemple, que pour ce qui est de Seeing AI, donc Seeing espace A espace Y, donc pour, si on veut voir Artificial Intelligence, donc intelligence artificielle, Seeing AI intègre, entre autres, la possibilité de lire du texte, par exemple, soit sur une boîte de carton, un écran d'ordinateur, et ce, à la volée. Et aussi intègre un détecteur de visage, de lumière, de couleur, intègre aussi maintenant même la possibilité en bêta de lire de l'écriture manuscrite. Moi, j'utilise beaucoup Seeing AI, entre autres, pour souvent même voir qu'est-ce qui se passe sur un écran d'ordinateur en temps réel, sachant qu'on n'a pas à prendre une photo, attendre que l'analyse se termine et ensuite de ça, demander la relecture. Donc, ça se fait automatiquement. Dès que la caméra capte le texte, ça se fait automatiquement.
Et que ce soit d'autres applications, bon, Be My Eyes ou simplement contacter son ami pour dire, regarde, là, j'ai perdu telle chose ou est-ce que, bon, moi, dans mon cas, c'est mon téléviseur. Souvent, il est allumé, mais il ne fait pas de bruit, il ne dit rien parce qu'il est au mauvais menu. Alors, je suis obligé d'appeler quelqu'un pour lui demander est-ce qu'il est allumé ou pas. Et ben, donc, la caméra devient fort utile.
Oui, effectivement. Moi, j'utilise beaucoup Be My Eyes, par exemple, aussi pour des produits ménagers. J'utilise Be My Eyes pour plein de choses. C'est certain que trouver un objet, des fois, c'est peut-être un petit peu plus difficile avec la caméra, sachant qu'il faut quand même que la personne nous oriente, puis le champ de vision est quand même restreint. Oui, je l'utilise. Par exemple, séparer des boîtes de café, par exemple. Tout simplement, obtenir de l'information sur arranger, par exemple, un menu de téléphone sans fil sur un appareil. C'est quoi le bouton qui est situé à tel endroit, des choses comme ça. Pour ce qui est du téléviseur, par exemple, maintenant, il faut noter qu'il existe des téléviseurs où les menus sont entièrement vocalisés. En fait, il y en a chez Sony, chez Samsung, et j'en ai même acheté des téléviseurs plus low cost, donc à bas prix chez Sanyo.
Et tu as le choix, je sais qu'on a une liste, là, mais tu nous suggères soit le clavier ou le Nearby Explorer, c'est toi qui choisis.
Nearby Explorer, dans le fond, je vais en parler rapidement. C'est un GPS en anglais Donc, c'est un GPS pour la géolocalisation qui s'installe directement sur un téléphone intelligent, tout comme Blind Square, mais qui est encore plus précis que Blind Square. Par contre, c'est seulement en anglais pour l'instant. Au niveau du clavier connecté, moi, je l'utilise beaucoup dans le sens que ça permet de contrôler plusieurs appareils à l'aide d'un simple clavier, tout simplement en changeant le commutateur. Ou pour ceux qui sont braillistes, il existe également des afficheurs qui supportent maintenant plusieurs appareils, donc des afficheurs braille supportant plusieurs appareils, tels que, entre autres, les Focus 5e génération, ça existe en modèle 40 et 14. Nice. Donc, c'est très intéressant. Si vous
ce sont donc des claviers qui nous permettent, qui sont Bluetooth et qui nous permettent à la fois d'écrire sur un ordi et en même temps peut-être sur notre tablette et en même temps téléphone. Peut-être sur notre téléphone. Mais tout ça en même temps, on n'est pas obligé d'avoir 3-4 claviers ou de le débrancher exact. Sur un. Puis, donc, c'est sûr que ça sauve beaucoup
et
de temps.
Et j'ai acheté aussi.
Hey, t'as plus le temps. T'as triché. Là, déjà, je t'ai demandé un, t'en as fait deux. Alexandre, merci beaucoup, beaucoup. J'espère vraiment être capable de faire en sorte qu'on puisse se parler régulier. Je pense que je vais vendre mes bouteilles vides. Et nous, on poursuit parce qu'il faut jaser à quelqu'un de la capitale nationale. J'apprécie et bon magasinage à ceux et celles qui ont pris des notes. Mobilité Québec est un nouvel organisme pour promouvoir l'accessibilité dans la région de la capitale. Et Vincent Tremblay est un des instigateurs de ce nouvel organisme. Salutations, M. Tremblay.
Bonjour, M. Fortin.
Ah, Luc, c'est parfait. Tu vas bien, Vincent? Et surtout, est-ce que Mobilité Québec va bien?
Oui.
Ou c'est trop tôt pour le dire?
Non, il n'est pas trop tôt. Ça va super bien. Nos projets avancent bien, puis on fait notre place tranquillement, pas vite.
Les objectifs de Mobilité Québec, parce que j'avoue, je ne connaissais pas avant très, très récemment.
Oui. Ben, nous sommes un organisme de bienfaisance d'information pour les personnes à mobilité réduite. Mm-hmm. Et on a décidé justement de cibler trois axes, c'est-à-dire le conditionnement physique, l'accessibilité et la motivation par le biais de nos conférenciers. Donc, on veut dévoiler un peu ce que toute personne à mobilité réduite devrait connaître sur sa situation. En divulguant les informations. On veut devenir un peu une plateforme de référencement pour les personnes à mobilité réduite. C'est-à-dire qu'on veut recenser l'information sur notre site web. Donc, une personne qui a une question peut venir sur notre site et être dirigée vers l'information qu'elle recherche.
Bon, c'est sûr que je ne suis pas le premier à te poser la question, mais je n'ai pas entendu ta réponse. Il y a déjà à Québec le comité d'action des personnes en situation de handicap qui organise pas mal de sports, qui, je pense, même a un gym adapté. C'est pas eux-mêmes le challenge hivernal, je pense. Pourquoi donc pas juste essayer de s'associer et les aider, les seconder dans leur mission plutôt que de partir une nouvelle entité?
Ben nous, c'est pas seulement de rediriger l'information, c'est surtout un groupe de conférenciers. Mais ce qui arrive dans la société, c'est que il y a beaucoup de sources d'informations qui sont partout. Et une personne va être réduite. Vous allez aller chercher cette information-là, mais ne saura pas nécessairement où aller chercher cette information-là. Mmh. Donc, notre objectif, c'est qu'une personne à Mobilité Crédit n'ait plus à se poser cette question-là et doit tout simplement se dire « Ah oui, c'est vrai, Mobilité Québec est une bonne ressource d'information. » Donc, elle peut faire une recherche sur notre site web et être redirigée justement vers cette source-là que vous avez nommée pour aller chercher l'information. Alors, c'est souvent ça le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'une personne va vouloir avoir des services pour sa condition, quoi que ce soit, ne saura pas nécessairement où aller chercher. Donc, nous, on veut devenir cette ressource-là qui va permettre justement à une personne de pouvoir être dirigée à la bonne place.
Je sais qu'ici à Montréal, et d'ailleurs, c'est un des petits problèmes, il y a quelques plateformes qui parlent de lieux et de services accessibles. Bon, il y a ouais. Lucie Bruno, il y a... en tout cas, il y en a quelques-unes. Bon, je pense à On roule au Québec, entre autres, qui roule.
Ouais.
Est-ce que... Donc, on avait besoin d'une autre plateforme ou c'est parce que ceux que j'ai nommés ne décernent pas la région de Québec?
Il y a aussi J'accède, qu'on n'a pas nommé, qui est une plateforme très intéressante. Moi, mon objectif, pour commencer, c'est vraiment difficile de pouvoir démontrer l'accessibilité d'un lieu, étant donné qu'une personne va me demander « Est-ce que tu as mesuré la hauteur de la barre d'appui?
Ouais.
Est-ce que tu as vérifié le distributeur à savon? » On s'entend que ça commence à être du sur-mesure. Pour une plateforme, nommer toute cette accessibilité-là, ça demande énormément de travail. On peut penser à Kéroul, qui a recensé tous les lieux accessibles, les hôtels, puis ce qu'il y en a. C'est vraiment du travail acharné. Et le problème dans tout ça, c'est que l'évaluation a été faite en 2012. Et là, lorsqu'on veut remettre ça à jour, ben c'est tout encore un autre travail à faire. Donc, pour ma part à moi, Mobilité Québec, nous, on vise trois choses assez simples, ben quatre particulièrement. On veut dévoiler les stations-service avec service. Moi,
okay.
Je pense pour une personne à mobilité réduite, aller garder sa voiture de façon autonome, c'est très important. Donc, un défi qui est quand même assez...
De plus en plus rare.
Ouais, de plus en plus rare, ouais. Qui existe. Mm-hmm. Mais ces stations-là, je crois que c'est un défi qu'on peut relever. Donc, nous, on aimerait devenir vraiment la référence en stations-service avec service. On a jusqu'à présentement 34 stations de répertoriées dans la province de Québec. Et on voudrait vraiment s'étaler pour justement pouvoir là, mettre à jour puis montrer qu'il existe encore. Parce que c'est un service qui est quand même très reconnaissant pour nous, les personnes à mobilité réduite.
J'imagine.
Puis ensuite, on aimerait s'attaquer vraiment aux toilettes accessibles. Donc, moi, je crois que pour une personne, c'est important de savoir à quel endroit je peux aller aux toilettes aisément de façon autonome, que je n'ai pas besoin de demander à personne.
Ouais.
Donc, éventuellement, après avoir fait notre répertoire de stations avec service, on voudrait développer là, les toilettes à mobilité réduite.
Et là, on ne parle pas nécessairement de toilettes accessibles dans les stations-service. Là, on parle de à la grandeur, là où il y a une toilette, est-elle accessible?
Exactement.
OK. OK. Mm. Parlons des conférenciers.
Oui.
Comment les choisissez-vous? Quel est le type de contenu que vous privilégiez?
Nous, on recherche des personnes qui sont inspirantes, qui sont motivées, mais je crois sincèrement que chaque personne a été réduite. On a tous un parcours de vie qui a été avec des hauts et des bas, des défis qu'on doit relever au quotidien. Donc, moi, toute personne qui approche Mobilité Québec, qui aimerait partager son histoire, est toujours la bienvenue. Nous, on va évaluer à quel endroit qu'on pourrait envoyer cette personne-là pour partager son parcours de vie et ainsi motiver non seulement les personnes conscientiser un petit peu la société, mais aussi les étudiants dans les écoles, mais on vise surtout aussi les entreprises. Parce que moi, je crois que une personne à mobilité réduite, on n'a pas choisi dans la situation dans laquelle on vit. Ainsi, je crois que notre parcours peut être très motivant, puis en plus, on peut conscientiser la société sur justement notre condition. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans notre société que justement, ils peuvent nous regarder, mais ils ont des questions à nous poser qui ne sont pas tout à fait à l'aise à nous les poser.
Mm-hmm.
Fait que moi, je crois sincèrement que notre groupe de conférenciers est là pour cette mission-là, c'est-à-dire conscientiser et motiver notre société.
Jusqu'à maintenant, vous en avez combien au sein du groupe?
Jusqu'à présent, on est 6 conférenciers.
Ah, quand même!
Oui, et ça ne fait que commencer. Moi, j'aimerais pouvoir là, solliciter encore plus d'écoles et d'entreprises là, avec notre groupe de conférenciers.
Et j'imagine, je ne sais pas, est-ce que vous filtrez un peu en demandant à ceux qui réservent votre conférencier ou conférencière, bon, quel est le besoin que vous avez pour ensuite essayer de jumeler l'histoire appropriée à cette réalité-là? C'est un peu comme ça que ça se passe?
Oui, c'est un peu comme ça. Chaque personne qui donne sa conférence, on va essayer de faire en sorte que son parcours de vie concerne un peu la clientèle avec qui a fait affaire.
Je reviens au répertoire, Simon. Vincent.
Ouais.
Est-ce que ce sont des gens affiliés directement à Mobilité Québec ou monsieur, madame, tout le monde qui se promène peut vous dire tel endroit, telle adresse, c'est à peu près parfait et vous pouvez ensuite transmettre l'information aux autres?
Cette façon de procéder-là n'est pas tout à fait la plus valable pour accéder à l'accessibilité totale puisque c'est facile pour une personne de tel handicap de dire c'est accessible.
Ouais.
Mais par contre, pour une autre personne, elle ne peut pas être accessible. Donc, nous, notre façon de procéder, c'est de cibler une personne qui est vraiment attitrée de Mobilité Québec. On connaît son handicap, on sait comment est-ce qu'elle évolue les lieux. Et ainsi, on peut voir si, selon le jugement des autres personnes utilisateurs qui vont voir le lieu accessible, si c'est accessible pour cette personne-là.
Et j'entends que c'est surtout pour aider les gens avec triporteur, fauteuil roulant ou marchette. Là, on ne parle pas de handicap visuel ou surdité?
Oui, éventuellement. Moi, je
éventuellement.
Pour ces personnes-là. Je crois que les personnes impairées, ça concerne justement visuel et auditive. Donc, je crois que ça demande toujours un budget pour pouvoir permettre ça. Donc, chaque chose en son temps.
C'est sûr.
Mais moi, les personnes impairées sont toutes touchées par mon organisme.
Bon succès, Vincent Tremblay. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour votre temps.
Merci, Jean-Sébastien.
Avec une petite note de...
Tu n'auras pas le temps, malheureusement. Merci à Jean-Sébastien, à Catherine, à la mise en onde. Et moi, je vous retrouve lundi pour la première, en décembre.